Non.
Très bien.
Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que je sois en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bienvenue dans un monde meilleur, vous êtes sur Radio Canu, il est l'heure du Canu Info du jeudi. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Delphine.
Alors il y a plein d'infos cette semaine?
Oui, notamment quelques infos que l'on ne traitera pas. Donc je vais vous en citer quelques-unes. On ne parlera pas des manifestations du jour, des étudiants notamment et des lycéens contre la loi de travail et des quelques violences qui accompagnent ces manifestations régulières.
Pour il y a une bonne raison, c'est qu'on n'était pas à la manif aujourd'hui.
Exactement.
À Lyon. Ce qui nous paraît être une bonne raison de ne pas en parler. D'en parler mal, du moins, ça serait voilà. Peut-être le risque.
Nous ne parlerons pas de la rentrée de l'armée syrienne dans Palmyre, nous ne parlerons pas des attentats en Belgique, nous ne parlerons pas de Salah Abdeslam et de ses amis bouffés par leurs idées d'extrême droite religieuse, nous ne parlerons pas de la condamnation à 40 ans de prison du génocidaire d'extrême droite Radovan Karadzic, et nous ne parlerons pas non plus du pardon bien tardif du cardinal Barbarin, très à droite lui aussi, voire plus à l'extrême droite au niveau de ses idées. Mais par contre, nous parlerons de plein d'autres choses.
Oui, on va faire quelques brèves sur l'occupation israélienne. Nous parlerons du Congo, hein, une bonne nouvelle il paraît aujourd'hui.
Ouais.
Nous parlerons du périple de Madame Le Pen au Canada, vous allez voir c'est sympa. On parlera d'homophobie malheureusement au niveau international, puisque ça se passe de partout l'homophobie. On parlera de la trahison du capital de la semaine, on parlera du trio Darty Conforama, la FNAC, oui, je vous parlerai des grèves Lidl de ce jour, et puis Laurent vous parlera d'une BD, et puis peut-être d'autres choses si nous avons le temps.
Donc on va officiellement, effectivement, ouvrir ce Canu Info par quelques petites brèves de l'occupation israélienne en terre palestinienne, avec quelques nouvelles sur le vol des terres. Je ne vous fais pas le résumé depuis la dernière fois qu'on a parlé de la Palestine, peut-être un peu plus d'un mois, mais quand même, on peut noter que le mardi 15 mars, a été la prise de terre la plus importante depuis des années dans la très convoitée vallée du Jourdain, donc qui se situe en Cisjordanie, puisque Israël a confirmé, donc aux alentours du 15 mars, avoir pris possession de 234 hectares de terre dans cette vallée du Jourdain, un territoire donc palestinien occupé par Israël. C'est là donc la plus importante. C'est dans une zone qui se situe près de la frontière avec la Jordanie. Toutes ces infos nous étant données par l'organisation sioniste anticolonisation, la paix maintenant, hein, peace now en anglais, je vous le ferai pas non plus en hébreu parce que j'ai plus de mal. Mais voilà, comme quoi on rappelle qu'on peut être sioniste et pour la paix et pour vivre à côté et en ami avec les Palestiniens, ce que nous démontre à chaque fois la paix maintenant, même si nous on n'est pas forcément d'accord avec la vision qu'ils ont du territoire là-bas. Alors c'est en fait le COGAT, c'est l'organe officiel du ministère israélien de la Défense, qui a préempté, volé, pris ces territoires, ces 234 hectares, qui ont donc été officiellement déclarés par cet organe terre d'État d'Israël. Voilà, ça c'est fait. Hein. Vraisemblablement, ça va être pour l'armée ou sûrement pour installer des colons. Donc la décision a été officiellement actée en fait le 10 mars, mais il a fallu attendre le 15 mars pour être au courant de tout. Et d'ailleurs, ce qu'on notera, c'est que à cette époque-là, aux alentours du 9-10 mars, il y avait la visite de Joe Biden, l'Américain qui venait parler au nom d'Obama, essayer de trouver, c'est le vice-président, hein, d'essayer de trouver, faire avancer la paix ou pas, hein, parce qu'on sait pas bien à quoi il sert chaque fois qu'il va là-bas. En tout cas, ils ont attendu qu'il parte pour le dire, hein, pour pas qu'il soit sur place pendant qu'il y a une belle action d'augmentation des terres colonisées et qu'il dise, ben non, nous on n'est pas d'accord avec ça. Ils ont attendu qu'il parte quand même. Voilà. Et aujourd'hui, une nouvelle info est tombée. Israël continue de bouffer des terres. Cette fois, c'est dans la région de Naplouse, puisqu'une nouvelle confiscation, bien évidemment toujours illégale au niveau du droit international, vient d'être officialisée par Israël. Ça concerne des villages, Al-Luban Al-Sharkiya, Al-Sawiya. C'est le deuxième village et le troisième c'est Kariout. Donc on leur a dit de donner on leur a pris 120 hectares de terre qui vont sûrement servir comme j'ai dit juste avant, c'est soit pour l'armée, ça c'est le terme officiel, et puis soit pour installer des colonies. Il faut savoir que notamment dans cette région il y a une dizaine de colonies juives, hein, il y a Shiloh notamment, voilà. Donc la confiscation des terres continue. Alors, conséquence directe ou pas, deux Palestiniens ont été abattus aujourd'hui. C'est dans la tristement célèbre ville d'Hébron. Alors, vraisemblablement, les deux jeunes Palestiniens de 21 ans ont tenté d'agresser un soldat avec un couteau. Ils ont légèrement blessé un soldat et donc les militaires auraient riposté et les auraient abattus. Donc ça, c'est au départ la version officielle qui a été annoncée par l'armée israélienne sur son compte Twitter. Ensuite, le porte-parole d'un hôpital israélien annonce que le soldat est dans un état stable et que ses blessures sont légères. Hein, donc il a eu son petit coup de canif, mais pas grand-chose. Et puis est sorti, alors pas encore officiellement, mais les services de justice, les policiers et les journalistes l'ont vu, une vidéo tournée par un passant, peu après l'attaque, et on voit l'un des deux Palestiniens au sol, qui bouge légèrement. Les ambulances arrivent sur les lieux, et un soldat semble viser à la tête le jeune homme qui serait pas encore mort. Et donc il y a pas de son. Du coup, on n'entend pas tirer, mais on voit la tête bouger et du sang sortir, laissant quand même supposer que le militaire est allé finir d'assassiner le jeune Palestinien. Alors l'armée a annoncé officiellement que la police militaire avait ouvert une enquête, que le soldat avait été suspendu, donc ça a l'air sérieux, hein, pour que l'armée ait tout de suite pris des mesures. Donc voilà où on en est. Faut savoir, on vous rappelle quand même une énième fois qu'il y a un millier de colons d'extrême droite israéliens qui vivent à Hébron, dans une ville palestinienne de 200 000 habitants. Et il y a des incidents régulièrement. Faut dire que l'armée israélienne est présente. Il y a des checkpoints, une centaine de checkpoints dans toute la ville, que les militaires humilient en permanence les Palestiniens et les Palestiniennes. Hein, c'est assez difficile à vivre. Si un jour vous avez l'occasion d'aller dans la région, faut aller là-bas pour vivre ça une fois. Et après, vous verrez que vous aurez beaucoup moins envie de paix, mais plus envie de guerre, hein, parce que c'est la situation vraiment invivable pour les Palestiniens. Et alors, en même temps, aujourd'hui, c'est le bouclage total de la Cisjordanie. Donc, interdiction pour les Palestiniens d'aller, notamment ceux qui ont des permis de travail, d'aller en Israël. Pourquoi ? Eh ben, parce que c'est la Pourim, ou le Pourim, ou les fêtes de Pourim, je sais pas comment on dit. Donc, fêtes religieuses, et devant la situation tendue, quand même, dans cette région, L'État israélien a décidé de boucler les territoires palestiniens, donc la Cisjordanie, hein, puisqu'il reste plus que enfin les bouts de Cisjordanie. Alors c'est assez régulier, hein, les Palestiniens ont l'habitude que lors de fêtes juives, hein, c'est la dernière, c'était pour Yom Kippour en octobre, que voilà, leur, ils soient à nouveau brimés, empêchés d'aller travailler, puisqu'il y a quand même une bonne dizaine de milliers de Palestiniens qui vont travailler en Israël. Ce qui rappelle d'ailleurs finalement que la religion, quels que soient les discours des religieux, n'est pas vraiment un facteur de paix dans la région, parce que là c'est encore pour des raisons religieuses qu'on empêche les Palestiniens de vivre, qu'on empêche les Palestiniens d'aller travailler, ce qui accentue encore le ressentiment. Voilà pour ces quelques petites infos tristement palestiniennes. Et je vais continuer avec une félicitation.
Alors avant que tu fasses des félicitations, il y a longtemps, excusez-moi, que je n'étais point retournée sur le blog de Tzahal.fr, vous savez, le blog
horrible
en français de l'armée israélienne. Je vous rappelle que l'armée israélienne a un gros développement sur Internet, autant sur les réseaux sociaux que sur ses blogs qu'elle a dans tout plein de langues différentes, pour évidemment nous amener des messages la plupart du temps absolument charmants. Et cette semaine, c'était mardi, le site, le blog a publié un post pour célébrer les 10 ans de Twitter. Hein. Vous savez, on en a beaucoup entendu parler, parce qu'effectivement, tous les médias, que ce soit la presse habituelle, les radios, tout le monde, utilise Twitter maintenant, donc évidemment personne ne va vouloir taper sur cette multinationale. Et donc Tzahal.fr souhaite fêter les 10 ans de Twitter et nous explique: pour l'occasion, nous avons décidé de chercher dans notre feed afin de vous retrouver les plus beaux tweets de Tzahal. Et donc ils ont réuni 10 tweets magnifiques, je ne vais pas tous vous les faire. Alors le premier tweet, notre premier tweet, nous explique-t-il, date historique: 50 tonnes d'armes ont été saisies le 3 janvier 2002 par Tzahal sur le navire cargo Karine. Et là on nous dit: voici le premier tweet publié sur notre page, il a été posté le 3 janvier. Il n'a peut-être fait qu'un retweet à l'époque, mais bon, c'est notre premier tweet. Oh, on a un petit peu d'humour presque derrière, c'est joli, c'est poétique, c'est sympathique, c'est Tzahal.fr. Autre tweet mis en avant, notre première déclaration de guerre sur Twitter. Parce que Tzahal.fr nous raconte que l'armée israélienne a été la première armée au monde à déclarer une opération militaire sur Twitter. C'était l'opération Pilier de Défense en 2012. Et donc le tweet donnait: Tzahal a lancé une opération de grande envergure contre des sites responsables terroristes du Hamas djihad islamique dans la bande de Gaza. C'était en novembre 2012. Donc ils sont aussi contents de ce beau tweet. On nous parle aussi du tweet le plus retweeté. Il parle de lui-même, nous expliquons sur le blog. 1000 roquettes ont été tirées par les terroristes de Gaza. Retweetez si vous soutenez le droit d'Israël à se défendre. C'est celui qui a été le plus retweeté. Ah, tu peux rire. C'était en 2014. Il y a après des tweets aussi sur ces 10 de soutien. La première fois qu'on a exprimé notre soutien à Paris. Et on nous explique, je ne vais pas vous lire le tweet, parce que nous aussi, on sait ce que c'est que le terrorisme. Alors c'est normal qu'on soit là pour soutenir nos amis quand ça ne va pas.
Ouais, on leur expliquera quand même la différence, c'est que les Parisiens n'occupent pas une terre illégale. Peut-être voilà. Que c'est pas une différence importante.
Je te lis
eux,
les tweets, hein, moi je t'explique leur analyse. Il y a un tweet qui date de 2015, février 2015, la fois où on a remercié nos collègues français. Alors moi je me suis
oula, dit, ça oula. Fait
peur. Ouais. Tzahal se tient aux côtés de ses confrères de l'armée de terre française blessés aujourd'hui, alors qu'ils protégeaient la communauté juive de Nice. Il faut dire aussi que nos collègues, ce sont des vrais pros, ça c'est le commentaire de ce tweet. Et puis, il y a parce qu'il ne faut pas oublier notre mission première. Le tweet, c'est: il y a 77 ans, la nuit de cristal frappait les juifs d'Allemagne. Aujourd'hui, le peuple juif n'est plus sans défense. Et le commentaire de ce tweet, hein, ce commentaire donc récent de ce mars 2016. Notre nom, c'est l'armée de défense d'Israël et on prend ça très au sérieux. Là, on rigole beaucoup moins d'un seul coup sur Tzahal.fr. Donc voilà, à travers cette espèce de communication sur les tweets, il faut se rendre compte que l'armée israélienne est vraiment très très développée sur Internet et très forte. Je pense que c'est certainement l'une des armées au monde les plus douées en communication et en propagande sur Internet. C'est assez impressionnant. Et puis il y a cette espèce de truc entre une grande agressivité et puis de prendre les choses avec un espèce de on est des gentils, on est des plaisants. Non, c'est une armée. Et moi, ça me fait toujours bizarre quand une armée essaye d'avoir de l'humour, quelle qu'elle soit, hein, à travers le monde. Ça me choque toujours un petit peu. Mais voilà, ça fait partie de cette propagande sur Internet qu'on trouve donc sur ce blog et donc sur les réseaux sociaux. Et donc les félicitations, tu disais ?
Oui, ben moi je voulais féliciter quelqu'un que je ne connais pas personnellement, vous imaginez bien. Mais bon, voilà, je voulais féliciter Sassou Nguesso. Donc bravo, hein. Puisque toi, Sassou Nguesso, je vais te tutoyer, hein, parce que j'ai envie, je sais pas pourquoi, mais parce que je te déteste, parce que tu es
ce niveau-là,
un
je crois
voleur, parce que voilà, tu es un escroc, tu manipules tout. Tu as été élu président de la République du Congo. Donc au premier tour, c'est ce que tu voulais, et tu as gagné, bravo. Bon, revenons sur un truc un peu officiel, un peu sérieux. Effectivement, c'était le président sortant, Denis Sassou Nguesso. Grosso modo, il a 32 ans de pouvoir, alors il a fait des breaks au milieu, hein, quand même. C'est pas continu. Mais donc il a été réélu, ça a été déclaré officiellement aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou. Donc voilà, c'est quand même super triste. Le deuxième arrive à 15% seulement des suffrages. Derrière, c'était Guy Brice, Parfait, Colélas. Et puis le troisième, qui faisait pas rire non plus, hein, qui était le général Jean-Marie-Michel Mokoko. Lui, il arrive troisième avec 14%. Bon, bien évidemment, les deux candidats, deux et les autres d'ailleurs, candidats de l'opposition, dès le début de semaine, avaient dit que ils n'étaient pas d'accord avec ce qui s'était passé. Ah ben, on s'y attendait. Alors, rappelons quand même qui est ce président dictateur congolais. Donc, 72 ans quand même. Il commence à être un petit peu vieux, le monsieur. Faudrait songer à la retraite. Avait fait modifier la constitution en octobre, puisqu'il n'avait pas le droit de se présenter. La constitution qu'il avait déjà mis de force un peu sous... qui avait été installée un peu sous la contrainte et qu'il n'avait jamais lui-même accepté. Donc, voilà, tout le monde avait qualifié... Enfin, tout le monde. Les opposants avaient qualifié tout ça de coup d'État constitutionnel. Alors, c'était l'époque... Ça se faisait pas mal dans cette région d'Afrique. Hein. On se rappelle du Rwanda qui a fait pareil, etc. Donc, il décide de modifier la constitution. Il fait un référendum. Et le référendum lui donne, bien évidemment, l'autorisation de briguer un nouveau mandat. Donc voilà, bon, le Congo c'est pas un gros pays, c'est un petit pays, mais qui a l'avantage quand même d'avoir un petit peu de pétrole, ce qui intéresse pas mal de monde. Donc, maintenant qu'il a cette constitution qui a été faite vraiment sur mesure, hein, il n'y a plus de restrictions de nombre de mandats, plus de limites d'âge, on peut imaginer que Denis Sassou Nguesso poursuive, il reste au pouvoir jusqu'à sa mort. Hein. Alors s'il vit jusqu'à 100 ans, les Congolais vont souffrir un petit peu quand même de Sassou Nguesso, qui est tout sauf un vrai démocrate, hein, faut quand même le dire, le référendum ayant été quand même pas mal contesté, sauf par la France, hein, qui avait... constater le résultat. À contester dans la rue, puisqu'il y avait eu pas mal de manifestations, au moins 46 morts, hein, puisque la police avait tiré à balles réelles sur les manifestants, pas mal de blessés aussi. Mais la France avait continué à dire que tout se passait bien, que, je cite M. Hollande, le président Sassou peut consulter son peuple, ça fait partie de son droit, et le peuple doit répondre. Mais évidemment, on savait que la consultation allait être plus ou moins frauduleuse. Et donc ils avaient accepté ce résultat. Alors si on regarde un petit peu le pourquoi du comment, que la France soutient encore une fois un régime bien pourri, en dehors de l'aspect néocolonial ou postcolonial de la France, ça c'est l'explication historique, mais il y a plus de colonisation telle quelle de la France. Mais ça a été remplacé par quelque chose de bien plus pernicieux, hein, ce que Survie et François-Xavier Verschave qualifiaient de France-Afrique, c'est-à-dire une colonisation différente, politique, indirecte, économique, directe. Et c'est tout ça qui est toujours en place aujourd'hui, après des années après les indépendances des anciennes colonies. Alors, quelques petites affaires pour vous rappeler un petit peu ce qui se passe. Alors, il y a l'affaire des biens mal acquis, qui a mis en cause notamment Sassou Nguesso, hein, qui est, donc il faut savoir que le Congo est un pays pauvre, que les gens sont pauvres, mais pas Sassou Nguesso et sa famille. Donc il y avait la première action, hein, sur les biens mal acquis, c'était en mars 2007, c'est les associations Sherpa Survie et la Fédération des Congolais de la Diaspora qui avaient déposé une plainte devant le procureur de la République de Paris contre les familles dirigeantes de différents pays. Alors il y avait l'Angola, le Burkina Faso, la République du Congo, donc la Guinée équatoriale et le Gabon, avec comme chef d'inculpation Rossel de détournement de fonds publics, en disant, ben regardez, avec ces détournements de fonds publics, ils ont acheté plein de biens en France, et ce sont donc ces biens mal acquis, d'où le nom. Malheureusement, l'affaire avait été classée en 2007 Ensuite, c'est l'association Transparency International qui avait en 2008 déposé une nouvelle plainte qui est toujours en cours d'instruction. Et c'est là on a un petit peu d'espoir quand même qu'un jour les biens soient au moins préemptés par l'État, enfin repris par la justice et revendus et l'argent redonné peut-être, enfin je sais pas comment d'ailleurs on pourrait faire ça, mais redonné à des gens qui luttent pour la démocratie dans les pays concernés. Donc voilà, faut savoir. Alors, ils sont propriétaires de trucs de riches quand même. Hein. Il y a des appartes dans le 16e et dans le 17e arrondissement de Paris, respectivement 2,47 millions d'euros et le deuxième 1,6 million d'euros. Ça fait cher hein, pour un appart quand même. Hein. Donc c'est des trucs un peu classe, quoi. Voilà, il y a une multitude de comptes bancaires ouverts dans les banques françaises et puis il y a plein d'autres biens en dehors de Paris, en banlieue parisienne, etc. Alors pour revenir sur ce qui fait le lien au moderne de la France avec certains régimes corrompus africains, bah il y a tous ces accords militaires, notamment de coopération, puisque la France est engagée du côté du Congo sur trois volets, grosso modo un soutien direct, hein, notamment la présence de conseillers français auprès des forces armées, hein, des dirigeants, et de la gendarmerie, hein, les forces de répression globalement, la formation des éléments des forces armées et de la police, et l'équipement de ces forces avec des ventes ou des dons d'armes. Alors les accords en vigueur, il y a celui de 74 hein, qui est l'accord historique, qui est toujours valable aujourd'hui, un accord de coopération militaire, qui est, voilà, il y en a plein de signés hein, dans pas mal d'anciennes colonies. Et puis il y a le complément hein, qui a été signé en deux fois en 2015, donc c'est récent. Hein, donc on peut pas dire c'était le passé en 74 d'accord. En 2015, Hollande a fait signer en janvier un nouvel accord qui encadre la formation, l'entraînement et l'organisation du commandement opérationnel des forces armées congolaises. Et en juin 2015, la mise à disposition d'un Français qui est le lieutenant-colonel Éric Misseret, qui est donc nommé conseiller au commandant de la gendarmerie nationale congolaise. Donc voilà, il y a d'autres coopérants militaires français qui sont mis à la disposition de l'armée et de la gendarmerie du dictateur Sassou Nguesso. C'est quand même pas mal. On signalera aussi qu'il y a plein d'intérêts économiques, puisque la France est le premier partenaire commercial du Congo hors Afrique, donc c'est 573 millions d'euros d'exportation de la part de la France vers ce pays. On rappellera que Total extrait 60% du pétrole congolais, et puis que le non moins peu sympathique Bolloré a obtenu en 2009 la concession du port de Pointe-Noire pour 27 ans. Donc voilà un bien public acquis, dont la gestion est acquise à Monsieur Bolloré en 2009. Donc voilà, il y a plein d'intérêts économiques qui expliquent pourquoi la France ne dit pas grand-chose sur les exactions de Denis Sassou Nguesso et sur sa réélection qui semble quand même pas mal frauduleuse.
Fiasco, raté, un cauchemar, des mésaventures, un flop.
Ah, ça c'est des bonnes nouvelles. Ça.
Les mots que j'ai pu lire dans la presse française et canadienne, des articles sur le voyage de Madame Marine Le Pen au Canada. Bref, on pourrait dire un ratage complet, semble-t-il. Alors, hier, Madame Le Pen a quitté le Canada. Elle est partie pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a passé 6 jours au Canada. Alors, c'est un voyage qui avait été préparé plutôt discrètement. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Hein. Elle était sur ce séjour là-bas à titre personnel. Et puis, elle était aussi dans le cadre là-bas, au Canada, dans le cadre de la journée de la francophonie. Parce qu'évidemment, c'est important, la francophonie, quand on est au FN, le mot France quelque chose, hein, ça a toujours un petit peu tout de suite on va s'y accrocher, c'est ce qu'elle a un petit peu tenté de faire. Alors on peut dire quand même que l'accueil a été un petit peu distant.
Ouais, voire difficile.
Difficile, effectivement, puisque les élus canadiens, québécois, ont refusé de la rencontrer. Alors le premier ministre québécois avait fait tout de suite savoir qu'il n'y aurait pas de possibilité d'entretien et de rencontre. La coalition Avenir Québec a décliné toute invitation, toute rencontre. Il y a le parti Québec solidaire, qui est un parti de gauche qui m'a fait bien marrer. Alors le parti a bien proposé une entrevue. mais par humanisme, pour lui montrer que le Québec n'était pas un terrain xénophobe, c'est ce qu'il expliquait. C'est plutôt drôle comme proposition. Alors, elle a quand même réussi à avoir un petit rendez-vous avec des membres du Parti québécois, qui est un parti qui souhaite obtenir la souveraineté du Québec. Une rencontre plutôt informelle, et d'ailleurs, ces jeunes membres se sont fait taper sur les doigts par leur chef, qui a condamné la rencontre après coup. Il a tenu à se dissocier formellement de la formation politique. Il explique que c'était une des initiatives personnelles et qu'ils ne se reconnaissent pas dans le Front National. Globalement, hein, c'est un petit peu le
ouais,
contenu de leur communauté.
Et grosso modo, même si ce n'est pas un parti de gauche, ils militent pour un Québec libre et souverain et autonome. Mais voilà, il y a moins, il n'y a pas de propos, les propos racistes, xénophobes,
non, non.
Qu'on trouve au Front
National. Ils disent que ce n'est pas du tout leur valeur, en tout cas, c'est ce qu'ils ont déclaré. Madame Le Pen, n'ayant pas trouvé de politique avec qui aller déjeuner ou prendre l'apéro, elle s'est reportée sur les médias et elle a fait des belles sorties. Hein. Là, lundi, elle a expliqué au micro de Radio-Canada que le Canada était un pays de bisounours. Ah oui, non, mais elle y est allée carrément. Elle a globalement agressé les Canadiens, les Québécois. Elle leur a rentré dedans. Elle leur a dit que c'était des gros nuls. Elle en a remis des couches aussi en marge d'une conférence de presse. Elle a expliqué, ses propos ont été rapportés, hein, vous dites que ces gens-là s'intègrent, attendez de voir, ils viennent d'arriver. Elle a ici aussi expliqué, ce ne sont pas que 60 ou 80 kilos de chair qui arrivent. Un homme, il vient avec ce qu'il est, ses valeurs, sa culture, sa religion, et il va chercher à rejoindre une communauté de gens qui partagent la même culture.
Ouais, c'est suite au fait que le Canada a dit qu'il était prêt à accueillir 25 000 réfugiés.
Ouais, c'est ça, il y a 25 000 réfugiés syriens, effectivement, qui sont accueillis au Canada. Hein, ça, c'est depuis l'arrivée du Premier ministre M. Trudeau en octobre dernier.
Qui est un peu bisounours, mais c'est, franchement, j'aurais bien aimé avoir un ministre bisounours comme lui, quoi.
Alors, parce que tu sais aussi, Madame Le Pen, elle est toujours sur cette même rengaine, ce leitmotiv. L'État islamique infiltre les terroristes au travers des migrants. Hein, donc, elle leur dit que globalement, ils sont complètement tarés au Canada d'accueillir des réfugiés syriens, puisqu'ils mettent tout le Canada très, très en danger. Alors, si je vous raconte aussi tout ça, c'est parce que ça s'est pas passé aussi bien qu'elle l'espérait, non seulement avec les politiques, avec les médias aussi, hein, puisque les médias canadiens lui ont rentré dans le lard. Moi, j'ai beaucoup aimé l'éditorial de Yves Boisvert dans La Presse. Il a écrit un éditorial Jeanne d'Arc chez les bisounours, c'est le titre. C'est très moqueur, c'est très intéressant parce qu'il lui est vraiment, il lui rentre dedans. Si je vous racontais donc tout ça, c'est parce que aussi elle a été accueillie par les antifascistes
qui l'ont chahuté.
Ah bah oui, qui l'ont un peu suivi à la trace. Par exemple, ils ont profité d'une conférence de presse qui a été donnée par Madame Le Pen à l'hôtel Marriott. C'était dimanche matin et donc militants et militantes sont rentrés dans la salle de la conférence de presse. Ils ont sorti une banderole, ici terre d'accueil, on préfère l'arrivée de milliers de migrants que la venue d'une seule raciste, et tout ça s'est fait au son de La Jeunesse emmerde le Front National. Bon, il faut savoir que dans tout ça, les seuls qui ont cogné, et plutôt le seul qui a cogné, c'est a priori le garde du corps de Madame Le Pen, qui a tapé sur une antifasciste.
Il n'a pas pu se retenir.
Non. D'ailleurs, Madame Le Pen, en fait, on voit bien la fille de qui elle est dans ce genre de situation, puisque tout ça l'ayant énervée, elle leur a répondu « Allez prendre une douche, les enfants, on va se coucher ». Elle a aussi expliqué qu'elle a l'habitude, il y a toujours 5 ou 6 bolchos crasseux qui tentent de perturber ses conférences de presse. C'est le terme qu'elle a employé, un bolcho crasseux, moi j'y suis pour rien, je vous raconte. Elle a même sous-entendu qu'il venait directement de Paris pour l'emmerder direct. Ouais. Eh ben non, il y a des antifascistes, Madame Le Pen, absolument de partout, contre toi et contre les autres. Tout ça a amené quand même quelques réactions, puisque elle avait réservé des salles dans deux chaînes d'hôtels qui ont annulé en fait la location, qui n'ont pas souhaité recevoir Madame Le Pen. Alors ça a amené un communiqué du Front National sur leur site internet. C'était en début de semaine, un communiqué très très court qui explique, après l'hôtel Marriott Champlain, c'est au tour du Sheraton d'annuler le salon dûment réservé pour permettre à Marine Le Pen de rencontrer la presse. Les sujets abordés par Marine Le Pen depuis son arrivée au Québec doivent être particulièrement sensibles, que certains multiplient les pressions afin de l'empêcher de rencontrer les médias. Une fois plus, c'est non seulement la démocratie, mais la liberté d'expression qui est en jeu. Quand je vous disais qu'elle est la fille de son papa, ça, je veux dire, elle a exactement les propos, il suffit de l'envoyer un peu plus loin pour que ça revienne vraiment très très fortement. Hein. Donc là, elle a traversé l'Atlantique. Donc globalement, c'est un gros gros ratage. Peut-être qu'elle aurait pu un peu mieux préparer ce voyage, être un peu moins discrète. Peut-être qu'elle aurait obtenu un peu plus de rendez-vous. En tout cas, ça s'est pas très très bien passé. Il y en a qui espérait que peut-être elle allait faire le voyage en bateau jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, histoire que le bateau y coule au milieu, mais bon, a priori, ça serait peut-être pas le cas. Mais voilà, en tout cas, ce qui est bien, c'est que de l'autre côté, on a des camarades qui ont su l'accueillir et l'accueillir plutôt vertement, donc ça, c'est plutôt bien.
Bon, on va rester dans les idées d'extrême droite et on va parler d'homophobie maintenant, avec plusieurs infos qui sont tombées là, ces derniers jours. Du coup, on va faire une petite rubrique homophobie. On va commencer par l'Ukraine. Donc l'Ukraine, il y avait un festival LGBT qui était organisé dans un petit hôtel, un petit truc, hein, vous imaginez, à l'échelle de l'Ukraine, ces pays d'Europe de l'Est, proche de la Russie, où il y a une grosse tradition homophobe, notamment liée à l'église très présente, orthodoxe. Quand ils organisent des choses, c'est à petite échelle, ils sont pas nombreux, et déjà, c'est compliqué à organiser. Donc là, ils avaient prévu une 70 participants. Alors déjà, c'était compliqué de trouver un hôtel, et quand ils l'ont trouvé, c'était dans la ville de Lviv. Ils ont été embêtés par des militants d'extrême droite. Alors ils étaient beaucoup plus nombreux qu'eux, ils étaient à peu près 200. Donc ils ont encerclé l'hôtel en scandant à mort, à mort, à mort. Oui, il faut tuer les LGBT, les homos. Il y en a même qui ont menacé de faire sauter l'hôtel. A priori, je suis pas sûr qu'ils avaient prévu des bombes, mais en tout cas, ils ont menacé. Alors, les organisateurs étant coincés à l'intérieur de l'hôtel avec 200 fous furieux dehors, ils ont appelé la police. Et la police a mis plus d'une heure pour arriver sur les lieux. Et la police n'a pas touché aux manifestants d'extrême droite, bien évidemment. Un peu comme chez nous. Donc, ils ont permis aux participants de sortir de l'hôtel en poussant un petit peu les manifestants, mais ils les ont laissés jeter des pierres, des pétards ou tout ce qu'ils avaient à la main. Aucun d'eux n'ayant bien évidemment été arrêté. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir que dans l'organisation, dès le début, ils ont galéré. Ils ont galéré pour trouver des lieux. Ils ont eu pas mal d'avis négatifs, hein, notamment de la mairie, puisque a priori les hôtels ont dit, la mairie nous a appelé en disant attention, c'est une bande de pervers que des gens pareils doivent brûler en enfer. Hein, c'est le discours officiel de la mairie aux hôteliers s'ils accueillaient donc ces militants des droits des homos, donc dans ce beau pays qu'est l'Ukraine. Voilà, le maire de Lviv a même été jusqu'à reprocher aux organisateurs du festival le fait de faire ça, c'était une provocation. Je sais pas en quoi c'est une provocation, mais bon, bref. Voilà. Par contre, ce qui est très positif, c'est qu'il y a des politiciens ukrainiens qui on fait des avis officiels inverses, hein, et dans ce genre de pays, hein, où l'homophobie c'est plutôt accepté, dénoncer ces actes homophobes, ça rassure quelque part, notamment les défenseurs des droits LGBT en Ukraine, qui ont pu dire on n'est pas tout seul face à ces idées d'extrême droite portées, hein, par essentiellement par la religion, hein, dans en Ukraine, par les orthodoxes et par ces groupes d'extrême droite qui sont souvent proches, hein, des orthodoxes. Donc voilà, ils ont noté malgré tout ce qui est arrivé que c'était positif, parce que avant ça leur arrivait pas. Avant ils étaient attaqués, ils étaient emmerdés, mais ils avaient aucun soutien officiel de politique. Et là, pour la première fois, ils ont des soutiens officiels de politique. Ça veut dire que effectivement l'Ukraine évolue. Alors, on peut noter, c'est entre guillemets l'européanisation de l'Ukraine qui leur permet de faire ça, hein, puisque si jamais ils vont du côté des Russes, c'est bien évidemment bien pire. Donc, alors ça, c'est en Ukraine. On se dit bon, ok, l'Ukraine, voilà, ils ont un passé difficile, la religion est très présente. On va aller voir en Suisse. En Suisse, c'est beaucoup mieux, forcément. C'est un pays sympa, ouvert, tout ça. Eh ben, pas forcément. Puisqu'on va parler du CERN. Vous savez, le CERN, c'est une organisation scientifique qui travaille sur la recherche nucléaire, enfin des atomes, très exactement. Ils ont le grand collisionneur, le LHC là, hein, qui permet de, en faisant cogner les atomes entre eux, ils se cassent et on mesure et on découvre plein de choses sur l'histoire de la matière, sur l'histoire de l'univers. Voilà. Un truc scientifique de pointe, quoi. Il y en a un seul dans le monde. Enfin, ils sont deux trois comme ça dans le monde à être aussi bons. Eh ben, ça leur empêche pas d'être homophobes et d'être cons, hein, puisque plusieurs scientifiques du CERN, qui sont donc membres, enfin qui sont donc homo, c'est à Genève, hein, que ça se passe très exactement, avaient à plusieurs endroits, dans des lieux d'affichage autorisés, placardé des affiches LGBT, donc au sein de cette institution qu'est le CERN. Et il y a eu pas mal de réactions, donc soit les affiches étaient arrachées, soit il y avait des post-it avec écrit des mots du style pas de publication ici, bon ça c'est gentil, puis après c'était écrit alors Schwein, porc, ça veut dire porc en allemand, enfin, ça a commencé doucement puis ça s'est terminé par des insultes, les affiches déchirées, etc. Et sur une des affiches qui a été notée, cette phrase de l'Ancien Testament, nous rappelant que la religion est bien derrière tout ça, finalement, je cite cette phrase qui leur a été notée, c'est, vous la connaissez peut-être, hein, c'est « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. » On rappelle hein, que les trois religions incitent toujours à la mort sur les homos. C'est toujours dans leur texte officiel, donc effectivement oui, ce groupe de scientifiques a mal vécu les choses. Alors ils ont essayé de transformer leur combat finalement pour leurs droits, à la différence, à être homo au sein du CERN, en un club, hein, puisqu'il y a des clubs au sein de ces salariés du CERN, ils sont assez nombreux hein, les salariés du CERN, et ça leur a été refusé, hein. Il y a pourtant une cinquantaine de clubs sur plein de raisons différentes, eux ça leur a été refusé. Bon, les raisons étaient pas très glorieuses. Alors, suite à tout ce qui s'est passé, à notamment un début de médiatisation, le directeur du laboratoire, qui est Rolf Dieter Höher, a adressé à l'ensemble du personnel des mises en garde contre les atteintes faites aux affiches. Alors, bizarrement, c'est juste contre les atteintes faites aux affiches. Le fait que ça ait insulté des personnes, ça l'a beaucoup moins gêné. Enfin bon, bref, il a quand même dit qu'il fallait calmer les choses. Il a autorisé une sorte de création d'un groupe informel, mais pas plus. Bon voilà, c'est juste pour rappeler qu'au sein même des entreprises, au sein même d'une grosse structure faite de scientifiques, c'est-à-dire de gens intelligents, de gens instruits, l'homophobie, elle existe encore. C'était assez surprenant hein, ce qui sort du CERN. Eh ben si, c'est possible. Et, pour terminer sur ces informations, encore pire. Puisque nous allons aller en Géorgie, alors non pas la Géorgie qui est, on va dire, presque en Europe, hein, mais la Géorgie, l'État des États-Unis d'Amérique. Puisque aux États-Unis, ceux qui décident des lois ont un projet de loi anti-gay qui est fondé, encore une fois, sur la liberté religieuse. Le projet de loi s'appelle HB 756. Le but de ce projet de loi, c'est d'octroyer au départ aux pasteurs l'autorisation de ne pas célébrer de mariage unissant les couples du même sexe sous le couvert de liberté de conscience. Bon, ça concernait les pasteurs, c'était déjà pas très classe, mais bon, ça allait jusque-là. Alors ça avait été accepté à l'unanimité par la Chambre des représentants de Géorgie. Et puis, ils ont modifié la loi, hein, ils l'ont fait passer aussi, en disant que ça pouvait concerner toutes les personnes salariées. Donc, un médecin, par exemple, peut dire « Ah non, au nom de ma conscience religieuse, je refuse de soigner un homosexuel. » Alors ça a été voté, et ça a été accepté aussi. Alors, pas la majorité, mais 104 voix, 100 pour, 65 contre. Donc, cette loi est passée. Donc, aujourd'hui, en Géorgie, alors pas tout à fait, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité, mais si cette loi est définitivement acceptée, en Géorgie, n'importe quel travailleur pourra refuser de travailler pour la personne si elle estime que ça attaque sa liberté de conscience religieuse. Alors, si vous êtes athée, vous n'avez pas le droit, vous. Par contre, de dire, moi je dépanne pas le catho intégriste ou le chrétien intégriste ou le machin intégriste, là, homophobe, tout ça, non, vous n'avez pas le droit. Par contre, eux, ils ont le droit de faire l'inverse. Hein. Donc c'est quand même très, très triste. Alors, ça a entraîné des réactions, tout ça. Et c'est là, il y a à nouveau quand même des réactions, c'est donc à nouveau positif. puisque d'abord des élus de tous bords se sont mobilisés quand même pour dire non, mais ça allait bien quand c'était pour le mariage, mais il faut pas que ça aille plus loin que ça, c'est pas normal. Donc il y a même des élus conservateurs, des experts, des croyants, des entreprises, et 75 000 Géorgiens, puisqu'il y a une pétition, ont exprimé leur opposition à cette loi. Alors cette loi, elle n'attend que l'avis du gouverneur de Géorgie, qui s'appelle Nathan Deal. Donc tout repose sur lui. Il a encore quelques semaines pour donner son avis. C'est inquiétant. Mais aujourd'hui est arrivée de nouvelles pressions, et ça peut marcher. Des pressions économiques. Et ça nous vient de Marvel et de Disney.
Ah. Oui, Marvel, Disney, quoi.
C'est le même. Oui, voilà. Mais Marvel, Disney. Alors vous allez dire, bon, comment ça? Oui, Marvel, Disney, ou enfin Disney officiellement la maison mère. Ils ont dit que c'était pas tolérable, ils étaient des entreprises inclusives, c'est-à-dire qu'ils excluent personne. Hein, et c'est le discours effectivement de ces capitalistes bisounours, on pourrait aller, mais c'est dans le bon sens du coup bisounours, c'est qu'ils acceptent tout le monde et ils ont des niches en fait, du coup ça leur intéresse de faire du business avec tout le monde quelque part.
C'est qu'effectivement il y a un certain nombre de comics ces derniers temps qui mettent soit en scène un super héros gay, il y a eu des mariages aussi dans des séries beaucoup plus connues, donc voilà, c'est vrai que c'est bien parce qu'il y a déjà des auteurs qui sont soulagés, ils peuvent dessiner ce qu'ils veulent, et puis c'est vrai que aussi Marvel s'engouffre aussi sur une recherche de profit. Mais moi, je veux voir le bon côté de la chose, c'est qu'il y a une envie de création.
Oui, mais c'est comme Google, comme certaines entreprises comme ça qui ont signé des chartes justement pour s'opposer à ces problèmes d'homophobie. Donc, ils ont fait pression, et alors ils ont des moyens de pression importants, puisqu'il y a pas mal de séries qui sont tournées en Géorgie, et notamment il y a un studio qui a été construit pour ça. Et là, ils disent, attendez, nous, si ça continue, si ça passe, on tournera pas chez vous. Et ça fait énormément de travail en moins, énormément d'argent en moins. Il y a aussi une chaîne américaine qui s'appelle AMC, qui produit The Walking Dead, la série sur les morts vivants, qui produit aussi Better Call Saul, qui ont dit la même chose. Donc, on a beaucoup d'espoir que le gouverneur Nathan Deal revienne sur tout ça. En tout cas, ces trois infos nous rappellent que les raisons invoquées par les homophobes reposent essentiellement sur des raisons religieuses, là, qui sont mises en avant. C'est pas d'autre chose. Hein. Et on rappelle d'ailleurs que les trois religions dominantes monothéistes n'ont jamais supprimé les idées, les textes homophobes de leurs textes. On a eu tout à l'heure un extrait de l'Ancien Testament, donc qui est le texte des références des chrétiens et des juifs. Ils ont jamais modifié leurs textes. Et donc, tout ça permet à n'importe quel croyant de justifier son homophobie, puisque c'est écrit dans les textes religieux, ça permet de faire ces lois discriminantes, ça permet à l'État islamique d'assassiner les homos, ça permet tout ce genre de choses, tant qu'ils ne modifieront pas leurs textes, ils n'enlèveront pas, ou qu'ils annoteront pas ces partis homophobes en disant « c'est pas représentatif de l'époque actuelle, on n'est pas d'accord », il y aura toujours des gens pour les utiliser, puisque ce sont les textes officiels de ces religions.
Les vilains. Oh, les vilains, les vilains, les vilains. Alors, les traiteurs. Les fleurs, et même plan de table, imaginez donc. Et tout ça, c'est parti.
En vrille.
En vrille, vendredi dernier.
Alors c'était pour le rachat de quoi?
Alors c'est Darty, qui est au cœur des convoitises. Et Darty, les actionnaires, le groupe, a fait volte-face et a donc décidé de se marier avec Conforama, alors que le mariage était prévu avec la FNAC. Et oui, on vous avait expliqué il n'y a pas très longtemps qu'il y avait Conforama qui était revenu dans la course au rachat de Darty.
Eux, ils posaient du cash direct. Hein,
c'était ça, tu as bien tout retenu.
Ils avaient sorti les billets du coffre, ils étaient arrivés avec des grosses valises en disant on les pose sur la table.
Alors que la FNAC, c'était un échange d'actions. Pourtant, le groupe la FNAC avait remis un peu du cash aussi pour essayer d'emporter l'affaire, mais définitivement, ça n'a pas marché. Le conseil d'administration de Darty recommande à l'unanimité aux actionnaires du groupe d'accepter l'offre de Conforama. Et oui, ça se passe comme ça. Alors au-delà du cash, il y a aussi certainement la facilité de la chose, c'est-à-dire que la FNAC, malgré ses améliorations financières, malgré son entrée en bourse, ça reste très fragile, ça fait pas le poids face à des multinationales comme Amazon sur le secteur culturel. il n'y avait pas d'apport, mais aussi ça posait un problème, c'est que sur un certain nombre de produits électroniques, il y avait une concurrence, et là il allait falloir passer justement les autorités de la concurrence qui auraient pu demander à ce qu'un certain nombre de magasins soient vendus.
Fermés,
oui, en général ils sont plutôt vendus que fermés, comme à Lyon ou à Paris, puisqu'il y aurait eu une proximité Fnac-Darty certainement trop importante, qu'il y aurait eu une position de monopole, et que donc c'était aussi remettre encore en question la chose, de faire durer encore ce mariage, et que tout ça, finalement, avec Conforama, non seulement il y a du pognon, mais en plus il y a de la simplicité. Alors, très très sincèrement, pour Alexandre Bompard, le PDG de la Fnac, c'est un abandon devant l'hôtel, hein. C'est le sentiment qu'il doit avoir, ça doit être bien bien difficile, parce que ça faisait quand même des semaines, des mois qu'il négociait tout ça, qu'il y avait quand même aussi une stratégie d'un seul coup qui était placée derrière cet achat. Et voilà, c'est volte-face. Bah oui, c'est ça le capital. Hein. Et bah oui, Alexandre, qu'est-ce que tu croyais, hein, toi aussi, ouais. On va te tutoyer. Qu'est-ce que tu croyais, que tout il était fait, que tu avais la bagouze avec le diamant dessus au doigt,
la Rolex au poignet et que ça allait marcher? Bah non.
Et bah non, tu t'es fait avoir, mon très cher Alexandre. Il y en a, ils ont été plus doués que toi. Voilà, donc on va se retrouver quand même avec un truc assez énorme, d'autant plus que la maison... de Conforama, Stanoff, est en train aussi de racheter d'autres choses comme Darty, ou alors des marques, des enseignes qui sont aussi dans le mobilier, comme Conforama, par exemple en Grande-Bretagne, et donc dans d'autres pays d'Europe. Donc ça va devenir vraiment un gros de l'électroménager, et puis de la vente de meubles. Ils sont déjà le deuxième en Europe derrière Ikea, hein, donc on va se retrouver avec un gros machin. Alors, la grève du jour, c'est la grève chez Lidl. Alors, il faut déjà se souvenir que le 3 mars dernier, c'était un jeudi, 200 salariés étaient montés à Rungis, ils étaient venus toute la France à l'appel de l'intersyndicale pour réclamer une augmentation des salaires à 1%, de 1%, excusez-moi, bon, ils réclamaient d'autres choses à l'époque, ça c'était donc début mars. Et puis, nouveau mouvement au niveau national aujourd'hui. Alors, les revendications, elles portent toujours sur une augmentation des salaires, puisque ils ont obtenu en février dernier 0,2% d'augmentation. C'est-à-dire que même les fonctionnaires à côté, ils sont extrêmement bien augmentés. Voyez un petit peu quand même. C'est sous de la gueule du monde, hein, soyons clairs. Alors, il faut savoir que à Lidl, on a plein d'idées, puisqu'on donne une carte de réduction à hauteur de 7%. Hein. Là aussi, c'est quand même pas énorme. Ouais. Et puis, il y a des bons d'achat de 100 euros en fin d'année qu'il faut dépenser. Où ça ?
À Lidl.
Eh ouais, c'est bien fait quand même, le capital, hein, tout ça, tout ça. Alors, comme le font remarquer les syndicats, les salariés, c'est très bien tout ça. Hein, sauf que, bon, les syndicats réclament une augmentation de 1% des salaires hors prime. Et puis, que tous ces machins qu'on donne comme ça, les cartes de réduction, non seulement ça permet un peu plus d'enrichir Lidl, mais en plus... Pas sur le long terme, c'est rien, quoi. Hein. Ça peut être mis en question l'année prochaine, et puis ça fait pas du pognon dans le porte-monnaie, tout ça, quoi. Une autre revendication extrêmement importante, c'est les conditions de travail. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accidents de travail à Lidl. C'est, on parle d'un taux 5 fois plus important que dans le reste de la grande distribution. Et puis l'intersyndicale demande aussi des embauches supplémentaires. Alors, ce qui est pas mal sur le tract de l'intersyndicale UNSA-CGT, c'est qu'on nous rappelle que Lidl, c'est le 4e mondial en termes de chiffre d'affaires, présent dans 23 pays européens, 10% de son chiffre d'affaires en plus en 2015 en France. On nous explique aussi que c'est 100 millions d'euros dans la pub pour 2015, mais seulement 20 millions d'euros d'augmentation en 2016. Et oui, il y a des petites différences. Que c'est des conditions de travail inacceptables, c'est le record des accidents du travail, c'est le record pour le travail à temps partiel, et c'est le record pour les salariés en dessous du seuil de pauvreté. Ça fait beaucoup quand même pour une même enseigne, il faut bien le dire. Alors, il y a 15 entrepôts sur 24 ou 26. Je suis désolée, j'ai pas le chiffre, hein, puisqu'il était variable, hein, selon les sources que j'avais en face de moi. 15 entrepôts étaient donc en grève aujourd'hui. Il y en avait par exemple un vers Strasbourg à Enzem, je le prononce pas bien, Enzem, excusez-moi. Depuis 7 heures ce matin, les salariés ont se sont installés devant l'entrée de la plateforme. C'est une plateforme régionale, donc c'était quand même aussi une intervention importante. Mais à Ploumagor, c'est bien, je fais le tour de France aujourd'hui, j'ai du mal avec les actions, c'est en Côte d'Armor. C'est des grévistes qui ont bloqué aussi la plateforme. Ils ont donc empêché les camions de livraison de passer dans la centrale. En Normandie, c'était à Bourg-Achard, ils y étaient depuis minuit. Hein. Une soixantaine, il n'y a aucun camion qui est rentré et qui est sorti, tout était bloqué. À Lunel, dans l'Hérault, c'est pareil. Lunel, c'est un centre régional aussi, donc le blocage a fait un petit peu du bien. Quand on est du côté des grévistes, du mal quand on est du côté de la direction. Il y avait aussi dans le nord, à Seilly-les-Escambray, par exemple, ils y étaient depuis 5h du matin, les grévistes, essentiellement des préparateurs de commandes, qui ont bloqué l'accès à l'entrepôt. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai pu lire dans la presse locale que sur Seilly-les-Escambray, les grévistes disaient que quand même, ils étaient sympas parce qu'ils laissaient passer les camions de surgelés pour pas que ça se perde. Ça, c'est le petit peuple, hein. Ça a des considérations très pratiques. Et puis plus près de nous, à Annonay, le magasin a fermé. Il y avait 100% des salariés en grève. Il y a eu aussi une grève à Davézieux, à Saint-Rambert-d'Albon. Plusieurs magasins fermés en Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne, dans les Yvelines. Un super mouvement, franchement. Ça, voilà. J'espère que ça va ça va porter. Ce qui est intéressant, c'est la bataille des chiffres. Alors évidemment. La direction n'est pas d'accord avec le nombre de grévistes. Les syndicats expliquent qu'il y aurait entre 25 et 75% des salariés en grève, voire 100% comme là sur ce magasin d'Annonay, selon les régions. C'est-à-dire qu'évidemment, comme c'était au niveau national, ils vont pas vous donner un chiffre fixe, ils vous donnent une fourchette. La direction de Lidl, elle parle de 5% de salariés maximum. Pas pareil. Hein, tout de suite, pas pareil. Et alors, Nicolas Chialo, le responsable de la communication de Lidl France, lui, il a compté 6 entrepôts bloqués. Bah, moi, vous voyez, rien qu'en regardant sur la presse locale, j'en avais déjà 1, 2, 3, une petite dizaine. Et j'ai pas tout lu et j'ai pas tout vu. Donc, ces 6 entrepôts bloqués, moi, je pense que Nicolas Chialo, faut qu'il retourne peut-être sur le terrain, hein, rencontrer ouais. Les grévistes, discuter. Et puis, il se rendra compte que c'était pas tout à fait ça. Et alors, ce qui est très drôle aussi, c'est que Nicolas Chialo, vraiment, j'aimerais l'avoir en face de moi, il explique que la grève, je le cite, correspond davantage à un mouvement syndical qu'à un mouvement social, puisque pour lui, c'était essentiellement des personnes syndiquées. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle de notre côté. Mais vous voyez, comme dès que vous êtes syndiqué, syndicaliste, vous n'êtes plus un travailleur. Vous êtes issu d'une autre sphère. C'est quand même intéressant avec ce patronat. C'est plutôt bon signe si les gens sont syndiqués dans les magasins Lidl. C'est que, vu le taux de syndicalisme en France, on peut penser que du coup, ça doit être très très dur à Lidl pour que les gens se syndiquent et se mettent en grève. Bon, voilà, donc une grève... C'est pas dit que ça soit pas la dernière de ce printemps. On aimerait que les choses avancent, mais enfin, il y a moyen qu'ils se remettent encore en lutte et en mouvement. Voilà, si vous fréquentez les magasins et que vous y allez demain, et souhaitez-leur bon courage.
Alors, on va parler un petit peu BD maintenant. Donc, cette semaine, la BD que je vous ai choisie, que je vais vous présenter, ça s'appelle La poussière du plomb. C'est une BD sortie chez Delcourt. Hein, ça fait 218 pages. Donc ça se passe en Italie en 1969. Alors si vous vous rappelez, l'Italie 1969, mais c'est les années de plomb, d'où le titre, les poussières de plomb. Les années de plomb, hein, c'est quand l'extrême droite fait des attentats, que des fois elle revendique au nom de l'extrême gauche pour faire croire, hein, mais on a bien compris que c'était l'extrême droite, que l'extrême gauche armée rouge communiste fait des enlèvements, hein, on se rappelle de tout ce qui a pu se passer, Aldo Moro, toutes les brigades rouges, tout ça. Il y avait partout, hein. Il y avait ça en France, il y avait ça en Allemagne. Donc, une situation un petit peu insurrectionnelle hein, en Italie dans ces années-là. Alors, on suit du coup des petits jeunes qui sont des militants communistes de la lutte armée et qui vont effectivement faire des actes un petit peu répréhensibles. Hein. Ils vont attaquer un fourgon pour essayer de financer la lutte armée, voilà. Alors, cette histoire qui est... lointainement inspiré de ce qu'a vécu Battisti et puis d'autres. met en scène ces jeunes. Alors on n'a pas de discours politique dans ce, on les voit, on a bien compris que quand ils étaient dans les manifs avec les rouges, ils étaient communistes, etc. Mais il n'y a pas de discours. Ils n'expliquent pas pourquoi ils sont communistes, et pourquoi ils ont envie de ça, pourquoi ils veulent virer les autres. On sait pourquoi ils s'énervent contre le Parti communiste italien, puisque c'est l'époque où le Parti communiste italien vient de s'allier avec la démocratie chrétienne, une espèce d'énorme traîtrise. Pour eux qui étaient communistes, et c'est une des raisons qui pousse une partie de ces communistes à entrer dans la lutte armée d'ailleurs, hein, c'est cette alliance contre nature, hein, entre des communistes et la démocratie chrétienne italienne. Mais finalement on suit ces personnages qui vont monter leur petit truc, ils vont tuer un flic, enfin voilà, forcément ça part en vrille, hein. C'est pas facile, hein, de faire du banditisme finalement, puisque c'est ça, attaquer un fourgon armé quand on n'a pas l'habitude d'être dans le banditisme. Et puis on voit aussi les liens qu'il y a avec la mafia, puisqu'ils trouvent les armes avec la mafia, ils ont un de leurs membres de ce groupe-là, ils sont 5-6, qui a des gros contacts avec la mafia, hein, puisqu'il a déjà piqué des voitures pour la mafia, du coup c'est lui qui tracte avec la mafia et qui leur fait faire des choses. Enfin, on a toutes ces alliances qui sont contre nature, quelque part, entre la lutte armée et les mafieux, hein, puisque politiquement c'est vraiment l'opposé, le grand banditisme et la lutte armée pour le peuple, hein, pour, ils se battaient avec des vrais idéaux d'égalité, tout ce qu'on connaît de ces courants politiques là, mais voilà, il y a la réalité, la réalité qui était sur place, c'est-à-dire que la mafia était super implantée, et quand on voulait une imprimerie pour imprimer des tracts, et ben fallait passer par l'imprimerie de la mafia, enfin voilà. Et on suit ces jeunes. Alors après il y a arrestation, il y en a qui se barrent à l'étranger avec la doctrine Mitterrand, ils sont accueillis en France, voilà, et on les suit comme ça, et puis on les retrouve un peu plus vieux à la fin du livre, et finalement c'est très touchant de voir ces jeunes qui font un peu n'importe quoi, faut quand même le dire. Ils étaient vraiment à fond dans leur truc et puis ils réfléchissaient pas aux conséquences. Ils avaient un idéal qui était plus fort que tout ce qu'on peut imaginer, tout le reste en fait, et qui se font un peu n'importe quoi, parce qu'avec le recul, on se dit mais attendez, ils auraient pu réfléchir, s'organiser plus. Et pourtant, ils étaient déjà pas mal organisés. Voilà, en Suisse, tout ça sur ces 218 pages. C'est assez monochrome, parce qu'il y a quelques couleurs, mais c'est des couleurs pastel et qui sont soit sous fond bleu, soit sous fond jaune, suivant les époques dans lesquelles ça se passe. Et finalement, ça permet un peu d'appréhender le pourquoi, le comment et comment se passait finalement cette lutte armée. Parce que c'est assez réaliste, hein, comme ils ont pas mal discuté avec des anciens, ces trois auteurs, hein, ils ont pas mal discuté avec des anciens Brigade Rouge ou autres, notamment Battisti et d'autres. Ils ont un vrai écho de comment ça s'est passé sur place. Voilà, et je trouvais que c'était pas mal d'avoir... Dans les BD politiques, des fois on s'attache trop au côté politique, à l'histoire, à définir pourquoi au niveau idées. Là, on a un tout petit peu ça, mais on a surtout comment ça s'est passé, comment ils ont fait des trucs, comment ils ont tenté, comment ils ont fait n'importe quoi, et comment, et voilà, finalement, à la fin, ils ont perdu. Mais ça, on le sait tous, l'histoire, on la connaît. Donc voilà, ça s'appelle La poussière du plomb. Donc trois auteurs qui ont fait ça, c'est Dominique Henry, Henri Labbé, Alexis Robin aux éditions Delcourt. Et pour terminer, j'avais deux petites infos très brèves. La première que je vais donner, c'est que... Tu voulais dire quelque chose?
Non, je t'en prie.
C'est que Hollande a validé la loi sur les transports publics, hein, loi ultra répressive, puisqu'elle va autoriser, elle va créer des délits pour ceux qui avaient monté des groupes SMS, des groupes Facebook, des groupes qui pouvaient échanger des informations en disant attention, telle station, il y a tel contrôleur. Donc ça, c'est validé, c'est 2 mois de prison et 3 750 € d'amende si vous faites ça. Et si, mais il y a même si vous faites de la promo pour ces groupes, vous avez des amendes énormes et de la prison aussi. Et puis la deuxième partie du texte qui a été aussi approuvée donc par le président de la République, c'est la mise à contribution des administrations publiques, de la sécurité sociale et autres, pour retrouver les vraies adresses des contrevenants qui font juste tricher, hein, mais tricher c'est déjà mal a priori, et ça mérite tout ça. Donc voilà une belle loi répressive que vient de valider le président de la République française. Et puis un tout petit truc anecdotique qui a contenté de faire passer des élus verts, de faire voter l'interdiction définitive des machines à voter, et c'est pas passé, ils vont essayer de le refaire une autre fois. Faut savoir qu'il y a aujourd'hui une interdiction d'installation de nouvelles appareils, hein, un truc qu'on appelle un moratoire, mais il faudrait passer quelque chose de définitif contre ces machines à voter qui sont, je vous rappelle, démocratiquement incontrôlables. Et puis voilà, on va faire un petit agenda.
Ouais, écoute, la seule info environnement de ce soir, ça sera le nom du nouveau navire de patrouille de Sea Shepherd. Il s'appelle l'Ocean Warrior, avec ça, s'il ne défonce pas tout,
ouais,
ce qui va se passer.
Allez les Warriors, allez-y. Donc une petite action anti-pub, pour relancer l'anti-pub, rendez-vous demain vendredi 25 mars à 17h30 au métro Cordelier, au niveau de la rue de la République, pour une action anti-pub et pour faire le bilan, puis pour discuter peut-être de prochaines vraies et grosses actions, peut-être plus grosses, ça dépendra du monde, remarquez. C'est lundi, on sera le 28, ce sera au Cédra. À 18h, le Cédrat, c'est sur les pentes de la Croix-Rousse, au niveau de la place. J'ai perdu le nom de la place. Au niveau des. Mince. La place du métro, là.
La place du métro.
Flash.
Le Cédrat. Oui, tu m'as embrouillé l'esprit maintenant.
Ah, voilà. La Griffe, un débat autour d'un livre qui s'appelle Les Néo-Paysans. Le métro, c'est Croix-Paquet. Voilà, j'ai retrouvé. Ah oui. Et donc, ça, c'est à La Griffe, c'est samedi après-midi, comme d'habitude, le samedi à 15h avec ce débat. On sera le 26 mars, samedi. Et pour terminer, la semaine prochaine, il y a la mobilisation syndicale contre la loi travail de Madame El Khomri. 31 mars, on sera, et le rendez-vous est à 13h30 à la manufacture des tabacs, et on va faire comme les grosses manifs syndicales, c'est-à-dire aller vers Bellecourt pour ceux qui veulent prendre la manif en cours de route. Voilà pour ce soir.
On vous laisse, nous on se retrouve la semaine prochaine. Ce soir, on vous laisse avec la petite cuillère.
Tout à fait.
On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao.
Bye bye. Le prochain Canu Info, c'est demain à 20h, à 19h sur la plus rebelle des Canus, des radios. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, 19h, 20h. Je meuble le temps que le CD se lance. Attention, tout de suite et nulle part ailleurs, la petite cuillère.